On a commencé une série la semaine passée sur les paroles troublantes de Jésus. Différents passages, différents versets un peu durs parfois ou qui pourraient être mal interprétés. Ce matin, on va voir ensemble un verset dans Matthieu 5, au verset 48, dans le fameux sermon sur la montagne où Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah, facile, parler de la perfection hey. ». Je pense que l'année passée, à la fête des pères, ma fille m'a donné une tasse comme un cadeau. Puis c'était écrit dessus « Perfection ». Fait que je pense que je peux parler d'expérience. Fait que j'ai pris ce verset-là, j'ai commencé à lire le passage, puis là, ouf! Disons que ça m'a un peu déçu. Peut-être que je suis pas aussi parfait que je pensais. On pourrait penser que les chrétiens s'accordent sur une chose, hein? La nécessité d'être saint. Partout dans la Bible, on est encouragé à être saint. Dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, hein, ça dit « Soyez saints car je suis saint ». Les évangiles parlent de ça, les différentes épîtres. Pierre parle d'être saint comme Dieu est saint. On est encouragé à marcher dans la justice, à fuir le péché. Dans Hébreux 12, ça dit qu'on doit atteindre la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Comme, wow! Puis pourtant, en pratique, il semble que pas beaucoup de chrétiens sont intéressés tant que ça par la sainteté. Souvent, les gens sont plus passionnés par les sujets qui touchent les questions familiales, les questions culturelles, les questions politiques, les enjeux de société. On dirait que ça motive beaucoup, hein, les chrétiens. D'un côté, il y a un extrême où il y a des chrétiens qui vont même, si on pourrait dire, faire des compromis par rapport à la vérité, à l'obéissance, à la pureté, parce qu'ils pensent que ça peut être des obstacles inutiles à annoncer l'Évangile ou à gagner en politique. De l'autre côté, il y a des gens qui vont mettre beaucoup l'accent sur la loi et l'obéissance. Certaines églises vont qualifier d'être légalistes ou dénuées d'amour. Comme deux approches un peu opposées, mais qui sont dues souvent à une mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est la sainteté. Et cette question-là était tout aussi présente à l'époque de Jésus qu'à notre époque aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et c'est cette question-là que Jésus adresse dans son fameux sermon sur la montagne. Un des enseignements les plus profonds, un des discours les plus importants de l'histoire. Imaginez-vous assis sur cette colline, entendre Jésus prononcer des mots qui tournent complètement à l'envers notre compréhension de la vie. Il prend des idées comme la justice, l'amour, la bénédiction, puis il en parle d'une manière qui est radicale. Dans un monde qui célèbre le pouvoir, le succès, les apparences extérieures, Jésus parle d'un royaume où les hommes sont élevés, les ennemis sont aimés et le cœur compte plus que la loi. Le sermon sur la montagne, c'est pas juste une série de bons conseils, mais c'est vraiment une invitation à vivre d'une manière qui reflète le cœur de Dieu. Il y a des gens parfois qui imaginent l'enseignement de Jésus comme une sorte de vision douce, comme un Jésus un peu hippie, là, peace and love, quelque chose de sentimental, romantique, de la justice, en contraste avec les rigueurs de la foi ou les pharisiens qui sont durs. Mais plus on médite ces versets-là, plus on réalise à quel point les exigences de Jésus sont rigoureuses. En fait, elles sont bien plus rigoureuses que tout ce que les pharisiens ou les scribes pouvaient penser à cette époque-là. Jésus parle de la vraie justice, puis il adresse à l'humanité entière quelque chose de vraiment exigeant, quelque chose qui nous fait réaliser à quel point on a manqué le but, à quel point on n'est pas qualifié. C'est un message qui était dérangeant au premier siècle. C'est un message qui est encore dérangeant aujourd'hui. Jésus nous parle que la sainteté et la justice est un engagement complet de la vie et du cœur. L'auteur américain Brennan Manning a écrit « La principale cause de l'athéisme dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui reconnaissent Jésus avec leur bouche, puis sortent de chez eux et le renient par leur mode de vie. » C'est ce qu'un monde incroyant trouve tout simplement incroyable. Dans cette série sur les versets difficiles, on va voir aujourd'hui ce verset qui résume si on veut, un peu le sermon sur la montagne, ou en tout cas cette section-là du sermon sur la montagne, un verset qui fait peur quand on s'y arrête, mais qui pointe vers quelque chose de vraiment extraordinaire. Un verset qui dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». On peut commencer par un petit mot de prière. Oui, Père éternel, on se présente devant toi ce matin, les mains tendues pour vraiment recevoir ta parole, recevoir ces instructions, ce que tu veux nous dire. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, afin qu'on puisse recevoir cette semence en nous qui puisse porter des fruits pour ta gloire. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est toi qui es le Dieu parfait, c'est toi qui es le Père. Trois fois saint. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour cette grâce d'être ici ce matin. Amen. On va commencer par regarder un peu le contexte général du sermon sur la montagne. Ensuite, on va s'arrêter plus spécifiquement sur les versets qui précèdent le verset d'aujourd'hui, avant d'en parler plus en détail. Alors, on va être dans Matthieu 5. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans Matthieu 5 ou sur votre téléphone. On va vraiment lire de Matthieu 5, 43 à 48, mais tout à l'heure, pas tout de suite. Mais si vous voulez suivre, vous pouvez déjà tourner dans Matthieu 5. Le sermon sur la montagne, c'est bien connu, c'est le fameux sermon où Jésus commence avec les béatitudes, hein? Heureux. Heureux ceux qui cherchent la paix, heureux ceux qui sont tristes. Alors, toutes sortes de bénédictions, un discours, un sermon célèbre de Jésus. Puis Jésus continue dans ce sermon-là à adresser plus spécifiquement la loi et la justice, la loi de l'Ancien Testament. Puis au verset 17, il commence avec une phrase frappante qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Puis il continue en expliquant que pas un seul iota, pas un seul point sur un i de la loi va disparaître avant que tout soit arrivé. Il continue même en disant, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes, les spécialistes de la loi, peut-être qu'aujourd'hui on dirait les théologiens, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, peut-être que les pharisiens, on dirait aujourd'hui, c'est les gens qui sont légalistes, ceux qui sont un peu puritains, là, qui veulent suivre toutes les règles strictes. Il dit, si votre justice n'est pas supérieure à leur justice, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comme, waouh, ça commence raide. C'est quelque chose qui est vrai. Si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Est-ce que ma justice dépasse celle des scribes et des pharisiens? Si je me regarde honnêtement, je ne suis pas si sûr. Puis en plus, il finit cette section-là, à la fin du chapitre, en disant « Soyez parfaits ». On lit ça, puis la réaction qu'on pourrait avoir, là, c'est comme « Come on, Jésus, tu viens d'annoncer le royaume de Dieu, tu viens d'annoncer la bonne nouvelle, tu dis que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont pauvres en esprit, pour ceux qui souffrent, ceux qui ont faim et soif de justice. Puis là, tu nous dis « Ah, puis maintenant, en passant, vous devez être plus juste que les meilleurs des théologiens. Vous devez être plus juste que le plus strict des légalistes. En fait, vous devez être parfait comme Dieu, sinon vous n'entrerez pas dans ce royaume-là. » Wow! Comment est-ce que c'est censé être une bonne nouvelle? C'est la pire des nouvelles. Si on s'arrête à ça, on se dit comme, c'est impossible. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Il y a des chrétiens parfois qui sont bien intentionnés, qui parlent de la loi et de la grâce là, comme des opposés vers le salut. Comme si l'Ancien puis le Nouveau Testament étaient opposés. C'est un faux point de vue, hein? Des fois, les gens voient la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, comme si c'était du légalisme. Mais Jésus vient ici corriger cette vision-là. Il vient corriger cette pensée un peu tordue pour nous montrer que même la loi que Dieu avait donnée dans l'Ancien Testament, c'était une bénédiction de Dieu. Puis il vient expliquer qu'est-ce que cette loi veut dire. Entre les versets 21 et 47, Jésus donne une série de 6 exemples. On ne va pas tous les regarder ce matin, mais je vous encourage vraiment à aller les lire, Matthieu 5, aller lire tout le chapitre, ça vaut la peine. Méditer sur ces exemples-là. Il donne 6 exemples de qu'est-ce qu'il veut dire par accomplir la loi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une justice qui est supérieure à celle des scribes et des pharisiens? C'est des séries, hein? Chaque exemple commence par « Vous avez appris ceci, mais moi je vous dis cela ». Ces six exemples-là viennent nous montrer que l'obéissance extérieure, ça ne suffit pas. Mais il doit y avoir aussi une pureté intérieure. Sans entrer dans les détails, juste en résumé, ce qu'on voit dans ces passages-là, c'est que, par exemple, la colère ou le mépris, c'est équivalent à un meurtre. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il était dit de ne pas tuer. Moi, je vous dis, si vous détestez quelqu'un, si vous haïssez quelqu'un, vous venez de commettre un meurtre. » La personne qui vient de me couper en auto, puis que je suis comme « Ah! » Le Seigneur me dit, « C'est un meurtre. Dans ta tête, dans ton cœur, tu viens de faire un meurtre. » Le mépris, je vois un politicien à la télévision qui dit quelque chose de ridicule, je suis comme « Ah! » Il est tellement comme ça, celui-là. Dieu dit, « C'est un meurtre. » La convoitise, les pensées impures, regarder une femme, la désirer, c'est de l'adultère. Regarder la pornographie, c'est de l'adultère. Le divorce, le remariage, à moins qu'il y ait de l'infidélité, le Seigneur dit c'est un adultère. Faire des serments, des promesses jurées pour rien ou sans tenir sa parole, c'est un faux témoignage contre Dieu. Il parle de la vengeance. Si vous vous vengez vous-même, si vous essayez de vous faire vous-même la justice, vous êtes en train de nier la justice de Dieu. Vous devriez à la place tourner l'autre joue. Puis un sixième exemple, il dit, vous ne devez pas juste aimer votre prochain, vous devez aussi aimer vos ennemis. Jésus fait un appel radical à la sainteté. La justice qu'il exige, ce n'est pas juste de se conformer à des règles, c'est ça qu'il parle. Ce n'est pas juste les règles extérieures. Les règles sont prescrites par la loi, les règles de la société. Il dit, la vraie justice, c'est un engagement du cœur et de la vie. C'est l'amour, l'affection, l'adoration, la dévotion, la loyauté qui doit être affirmée de façon beaucoup plus forte. Jésus ne contredit pas Moïse quand il parle de ces lois-là. Ce n'est pas un enseignement nouveau qu'il est en train de dire. Il est en train de simplement corriger les mauvaises interprétations de la loi. Dieu n'a jamais eu d'autres normes pour l'humanité que la sainteté. Dans Lévitique, à plusieurs reprises, il le dit, « Soyez saints car je suis saint. » Est-ce que Dieu nous demande l'impossible? C'est la question. Regardons plus spécifiquement les versets qui précèdent cette section sur être parfait comme Dieu est parfait. Alors, dans Matthieu 5, à partir du verset 43, on va juste lire ensemble quelques versets qui nous parlent de la perfection dans l'amour. Alors, Matthieu 5, à partir du verset 43, ça dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Alors, le commandement d'aimer son prochain se trouve dans Lévitique au chapitre 19. Mais dans la Bible, il n'y a aucun commandement qui dit de détester son ennemi, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Mais comme l'Écriture dit « aime ton prochain » dans Lévitique 19, certains Juifs, certains docteurs de la loi ont cherché à comprendre ça, puis ont dit « ben, puisqu'il est dit d'aimer son prochain, ben, ça veut dire qu'on doit haïr nos ennemis. » C'est logique. C'est devenu comme une prescription enseignée dans certains milieux à cette époque-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des manuscrits de la Mer Morte. C'est une série de manuscrits qui ont été retrouvés à partir de 1947, une grande découverte archéologique. Beaucoup de textes bibliques très, très anciens. Les plus vieux textes du prophète Isaïe, entre autres, ont été retrouvés, les plus vieux manuscrits qu'on possède. Puis aussi beaucoup d'écrits de ce groupe religieux qui était un peu une secte messianique, qui semblait attendre le Messie, mais qui était très strict dans leur loi. Puis à plusieurs endroits dans leurs textes religieux, ça dit « aimez les frères, haïssez l'étranger ». Ça revient à beaucoup d'endroits. Fait que c'était quelque chose qui était enseigné à cette époque-là. Aimer son prochain, bien, logiquement, ça veut dire haïr ses ennemis. Et à l'époque, le royaume de Judée était occupé par Rome. Ils étaient envahis par leur ennemi. Ils avaient un ennemi qui occupait leur pays, qui contrôlait leur pays. Alors, certains disaient, bien, il faut haïr son ennemi. C'est logique. Mais Jésus arrive là, puis il dit, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Il va même dire, même les collecteurs d'impôts aiment leurs amis. Je ne sais pas s'il y en a ici qui travaillent pour l'Agence du revenu. Peut-être que vous ne voulez pas lever la main, vous avez un peu peur. Si même aujourd'hui, les gens font des blagues, on n'aime pas payer les taxes, on n'aime pas trop l'Agence du revenu. Mais à cette époque-là, à l'époque de l'Empire romain, la réputation des collecteurs d'impôts était 1000 fois pire qu'aujourd'hui. C'était vraiment mauvais, être un collecteur d'impôts. Matthieu, l'auteur de l'Évangile, en savait quelque chose parce que lui-même était un collecteur d'impôts. Alors, il devait savoir c'était quoi se faire haïr. Dans l'Empire romain, la collecte des impôts, c'était fait par des sous-traitants. Ce n'était pas un ministère avec des fonctionnaires, c'était des sous-traitants. Le gouvernement romain engageait des sous-traitants pour faire la collecte d'impôts. Fait que là, il nommait quelqu'un de responsable pour faire ça, qui nommait des hommes sous lui, qui nommait d'autres hommes sous eux. Puis là, tout en bas de l'échelle, là, il y avait un gars qui devait obtenir son quota de taxes, qui allait de maison en maison, de ville en ville. Tout ce qu'il lui obtenait, tout ce qu'il pouvait obtenir en extra, là, c'était à lui. Fait que vous pouvez imaginer la corruption, les pots de vin, tout au long de l'échelle, c'était incroyable. C'était un poste pour devenir riche. Les gens voulaient devenir collecteurs d'impôts parce que c'était vraiment une façon de s'enrichir de façon malhonnête. Les gens étaient exploités, ils étaient volés, il y avait de la violence. On pouvait vous battre, on allait chez vous pour prendre vos impôts, on pouvait vous battre, battre vos enfants, battre votre femme, les prendre comme esclaves si vous n'aviez pas payé. Les collecteurs d'impôts étaient détestés. Doublement même détestés en Israël parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi. Ils travaillaient pour Rome. C'était des traîtres. C'est comme ça qu'ils étaient vus. Ils étaient vus comme méprisables. Jésus dit, même les collecteurs d'impôts ont des amis puis ils aiment leurs amis. Même eux, même les gens les plus méprisables de la société que vous pouvez imaginer, même eux, ils ont des amis. Si les seules personnes avec qui vous pouvez vous entendre, c'est les seules personnes que vous aimez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les collecteurs d'impôts aussi ont leurs amis. Peut-être c'est juste d'autres collecteurs d'impôts, mais ils ont quand même des amis. Et si vous saluez seulement vos frères, pas seulement, surtout à cette époque-là, une salutation, ça veut dire long, c'est quelque chose de sérieux. Saluer quelqu'un, ça veut vraiment souhaiter la santé, le bien-être à la personne. Si vous saluez vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les païens saluent leurs frères. La question que Jésus pose ici, c'est qu'est-ce que vous faites de si différent? Est-ce que vous êtes différent? Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes différent ou vous êtes pareil comme n'importe quel autre païen de votre quartier? La question de l'amour que Jésus pose ici, c'est quelque chose qui démarque les chrétiens de façon particulière. Les chefs religieux, eux, enseignaient quelque chose qu'ils croyaient juste. Pour eux, c'était cohérent. Vous aimez ceux que vous devez aimer, vous haïssez ceux que vous devez haïr. C'est cohérent, c'est ça la justice. Mais Jésus dit qu'ils n'ont pas compris c'est quoi l'amour de Dieu, l'amour biblique. Un amour qui est sacrificiel, qui est désintéressé, qui apporte la guérison, l'unité, la plénitude. Tout comme Dieu ne fait pas de discrimination lorsqu'il donne la bénédiction du soleil ou de la pluie, le peuple de Dieu ne doit pas non plus faire de discrimination quand il distribue l'amour. C'est ça l'amour juste. L'appel radical de Jésus, ce n'est pas de seulement avoir une obéissance extérieure à des règles, mais une obéissance du cœur. Ce n'est pas seulement de faire le bien que Jésus nous demande. Il nous demande de vouloir faire le bien. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Pas juste faire le bien, pas juste obéir aux règles, mais de vouloir faire le bien. Et d'où vient cette capacité, ce pouvoir d'aimer comme ça? Quand on voit ça en action dans la vraie vie, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant qui montre la réalité de Christ. L'amour désintéressé, l'amour sacrificiel, l'amour de ses ennemis. Dans Matthieu 5, au verset 11 et 12, un petit peu plus tôt dans les Béatitudes, Jésus dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Jésus dit, « Vous pouvez supporter non seulement les mauvais traitements de l'ennemi, mais vous pouvez aussi vous en réjouir. Pourquoi? Parce que votre récompense est grande dans le ciel. » Le commandement d'aimer son ennemi, c'est le commandement de fixer son regard sur les choses d'en haut et non sur celles qui sont sur la terre. Le commandement d'aimer son ennemi, c'est le commandement de trouver son espoir et sa satisfaction en Dieu et dans la récompense qui nous attend et non pas dans la façon dont les gens nous traitent. Si vous êtes plus préoccupé par ce que les gens pensent de vous, c'est parce que vous n'avez pas mis vos pensées en Christ, c'est que vous ne cherchez pas votre satisfaction en Dieu. Dans le psaume 63, ça dit que l'amour du Seigneur vaut mieux que la vie. Aimer son ennemi ne nous donne pas la récompense du ciel, mais chérir la récompense du ciel nous donne le pouvoir d'aimer nos ennemis. Au deuxième siècle, un des pères de l'Église, Tertullien, écrivait que les foules se pressaient dans son église parce qu'il disait « Voyez comme ils s'aiment les uns les autres. » Un peu plus tard, au IVe siècle, Jean Chrysostome écrivait que la seule chose qui empêchait la conversion du reste du monde est les chrétiens qui n'aimaient pas suffisamment. Saint Augustin, dans les Confessions, écrit « Bénis celui qui t'aime, qui aime ses amis en toi et qui aime ses ennemis en toi. » Le but, c'est de toujours aimer Dieu. On aime nos amis en Dieu et on aime nos ennemis en Dieu. On aime Dieu. Puis en 1 Corinthiens 13, un fameux passage utilisé beaucoup dans les mariages, « Quand je livrerai mon corps pour être brûlé et que je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » L'amour doit être la source de notre perfection. Mais face à cette norme-là, à cette perfection absolue, on ressent comme, en tout cas pour moi, une impuissance totale. C'est comme un coup de poing au ventre. Il y a un désespoir dans ça. Parce qu'on lit ça, on trouve ça beau, mais on se sent peut-être inadéquat. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des parcs d'attractions comme La Ronde ou... Quand j'avais peut-être 12 ou 13 ans, j'étais allé avec mon école au glissade d'eau à Bromont. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce genre d'activité-là, peut-être que vous avez déjà participé. Il y avait comme un dumb buggy qui descendait une côte. Là. C'était l'affaire la plus cool que j'avais vue de ma vie. Je voulais absolument faire ça. Il y avait une file. Je voyais les véhicules qui descendaient la côte. Là, ça allait vite, là, ça capotait. Ça avait l'air vraiment, vraiment super. Puis il y avait une espèce de petit bonhomme. Là. Ça disait, pour aller dans cette activité-là, tu dois être grand comme ça. Moi, j'étais trop petit. Quand on lit un passage comme ça, c'est un peu le feeling qu'on peut avoir. Tu dois être grand comme ça pour entrer dans le royaume des cieux. Personne n'est assez grand pour entrer dans le royaume des cieux. Personne n'est à la hauteur d'aller dans ce manège cool. C'est ça que Paul écrit quand il dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Personne n'est assez grand pour y aller. Puis on arrive au verset final qui résume cette section du sermon sur la montagne puis qui met un peu le clou final, le dernier clou dans le cercueil de nos propres efforts. Ça dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » au verset 48. Qu'est-ce que Jésus veut dire par « parfait » ? En grec, le mot « parfait » qui est employé, ça a aussi la signification d'être « complet », achever, être mature, être épanoui. Quand je faisais un peu des recherches sur le passage, j'ai vu, c'était pas mal ça qu'il disait au début. Ah, ça veut pas dire parfait, parfait, là. Ça veut juste dire comme mature. Soyez mature. Dans d'autres passages de la Bible, Matthieu 19, par exemple, Jésus répond à la question du jeune homme riche. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond, si tu veux être parfait, tu sais, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Dans Romains aussi, Paul nous encourage à éprouver quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Jacques, il nous encourage que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Les mots ne signifient pas une perfection sans péché. C'est pas ça l'idée. Puis à première vue, on pourrait dire « Ah, problème est réglé, ça veut juste dire être mature, il faut que je sois un chrétien mature. » Il n'y a rien là. Jusqu'à ce qu'on lit la suite du verset. « Soyez parfaits ou soyez matures, comme votre Père céleste. » Mais là, autant dire parfait. Vous devez être comme Dieu. Vous devez être saint comme le Père est saint. Jésus pointe vers la sainteté de Dieu comme la norme ultime. Ce n'est pas une liste d'actes à accomplir, mais c'est un appel à refléter le caractère de Dieu dans tous les aspects de notre vie. La sainteté, selon Jésus, donc, ça englobe toute la personne, autant à l'extérieur que à l'intérieur, les actions et les pensées. Les pharisiens limitaient la loi à des actes physiques extérieurs. Fais pas de meurtre, commets pas d'adultère, des actes extérieurs. Jésus enseigne que même les pensées, la colère, la convoitise, c'est des péchés. C'est équivalent. Vous pouvez obéir à toutes les lois, mais si votre cœur n'est pas aligné avec ces lois-là, vous commettez le péché. Jésus veut exclure toute hypocrisie. La vraie sainteté, c'est une cohérence entre l'extérieur visible et l'intérieur caché, les pensées cachées. C.S. Lewis a écrit « Nous pourrions penser que Dieu veut simplement l'obéissance à un ensemble de règles particulières, alors qu'il veut des personnes d'un type particulier. » L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église sainte. Jésus veut la sainteté. Mais en même temps, Jésus nous montre ici que ce n'est pas une question d'orgueil ou de supériorité, mais une question d'amour. Il rejette l'attitude de comme « Ah, je suis plus saint que toi », de se comparer. Puis il explique que la pureté morale, ce n'est pas seulement l'absence du péché, mais aussi l'amour, la présence de l'amour. Ce n'est pas quelque chose de négatif. On pourrait dire la sainteté, c'est comme de rejeter le péché, comme c'était négatif, non au péché. Mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi la présence de l'amour. Quelqu'un pourrait avoir une vie qui respecte toutes les règles de l'Ancien Testament parfaitement, mais s'il n'y a pas l'amour en lui, il est aussi pécheur que les autres, il est perdu. La sainteté se résume à l'amour, pas seulement l'absence de péché. Dans Romains 13, Paul écrit « Celui qui aime les autres accomplit la loi. » Si les gens aimaient vraiment les autres, toute la loi est accomplie dans l'amour. La sainteté, donc, consiste à ressembler à Dieu en suivant son exemple de perfection. Il appelle ses disciples à être parfaits comme Dieu est parfait. Comme dans l'Ancien Testament, quand ça dit « Soyez saints, car je suis saint », pas simplement des règles externes, mais une transformation intérieure qui conduit à une sainteté complète, tant dans les actions que dans le cœur. Être parfait, c'est refléter l'amour parfait de Dieu. L'amour que Dieu a eu pour nous, on peut le refléter autour de nous. On pourrait faire une longue série d'études sur l'amour de Dieu, sur les caractéristiques de l'amour de Dieu. Juste une petite liste. L'amour de Dieu est désintéressé, inconditionnel. L'amour de Dieu est immuable, il est éternel. L'amour de Dieu est saint, il est juste. C'est un amour qui est relationnel, un amour personnel, un amour qui déborde vers les autres et un amour qui est complet, comme on lit dans ce verset 48, un amour qui est mature, un amour qui est parfait. Par nous-mêmes, c'est quelque chose qui est impossible. Mais Christ a aimé parfaitement à notre place, allant même jusqu'à mourir pour ses ennemis. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Mourir pour son ennemi. Nous sommes appelés par le Saint-Esprit à grandir dans cet amour parfait et à refléter le cœur de Dieu dans le monde autour de nous. Tout ce passage du sermon sur la montagne révèle à la fois notre péché, notre incapacité de satisfaire aux exigences de Dieu. Ça, c'est l'aspect de la mauvaise nouvelle. On lit ce texte-là puis on dit « Wow! » Je ne peux jamais atteindre ça. Mais il y a aussi une bonne nouvelle qui vient avec ça. Jésus est venu accomplir la loi. C'est comme ça qu'il commençait le passage au verset 17. Jésus est venu accomplir parfaitement cette loi-là que nous, on était incapables de faire. Jésus est venu l'accomplir à notre place. C'est lui qui est notre justice. C'est lui qui est notre perfection. Comme notre frère disait, je pense, juste avant un des cantiques, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la vie de Christ qui est ma vie maintenant. Et c'est cette perfection-là qu'on a en lui. Jésus nous appelle comme nous sommes. On va à lui comme on est. Dans sa grâce, Jésus accueille tout le monde. Vous pouvez être pécheur, perdu, vous pouvez avoir fait les pires choses. Jésus vous aime, il veut vous accueillir. Il vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir pour vous. Puis lorsque vous allez à lui, il ne vous laisse pas comme vous êtes. Jésus vous transforme. Jésus nous transforme en son image. Il veut que nous soyons parfaits comme son Père. Pas comme un saint de l'ancien temps, un héros de la foi, un martyr. Pas comme un théologien ou un pharisien. Jésus veut qu'on soit parfait comme Dieu le Père lui-même. Les théologiens vont parler de trois sortes de perfection chrétienne. Ils vont parler de la justification, qui est notre position en Christ. Alors, quand vous donnez votre vie à Jésus, Dieu ne voit plus vos péchés, il voit la justice de Christ. Il dit, votre position en Christ, c'est une perfection, ça s'appelle la justification. Vous êtes justifié devant Dieu. Il y a une perfection pratique qui s'appelle la sanctification, qui est en cours de route. Le Seigneur nous transforme, nous instruit, nous fait grandir. On fait des erreurs, on tombe, il nous relève, on continue, on grandit. Rendu possible par Christ, par la foi, on grandit. Et il y a aussi une perfection future qui nous attend, la glorification lorsque Christ va revenir et qu'on va être transformé en un clin d'œil, en son image, à avoir cette perfection parfaite de Dieu en nous. James Montgomery Boyce, commentaires que j'ai regardés, il explique que pour être parfait comme votre Père céleste est parfait, vous devez vous détourner complètement de vos propres efforts et recevoir à la place la perfection dont Dieu a déjà pris les mesures de vous fournir. Rien de ce que vous faites ne sera parfait. Seul ce que Dieu fait est parfait. Les seules choses parfaites comme Dieu, c'est ce que Dieu fait lui-même. Par conséquent, si vous voulez atteindre la perfection que Dieu exige, ça doit être le résultat de son travail en vous et pour vous. C'est ça la partie piège, le trick. Soyez parfait comme Dieu est parfait. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Bonne nouvelle, Dieu vous rend parfait. Dieu veut vous rendre parfait. Dans le psaume 18, David parle de la perfection à deux reprises. Une fois de la perfection de Dieu, puis une fois de la perfection des hommes. Dans le psaume 18, au verset 30, ça dit, « Quant à Dieu, sa voix est parfaite. » La voix de Dieu est parfaite. Puis deux versets plus loin, David continue, « C'est Dieu qui m'a ceint de force et qui a tracé ma voie parfaite. » Qui est Dieu? Dieu est celui qui est parfait. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu œuvre pour perfectionner les hommes pécheurs, les gens perdus qui sont allés chercher. C'est lui qui nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu trace un sentier parfait devant nous et il nous permet de marcher dans ce sentier-là en Jésus, en Christ, par le Saint-Esprit. C'est une voie qui est parfaite, qui est différente de celle du monde. Dieu nous demande de fuir le péché, de fuir la Babylone environnante, le monde corrompu, le monde décadent, immoral, idolâtre, déchu. Partout où le péché semble attrayant ou omniprésent, c'est Babylone. Et on est encouragé à fuir. Un des dangers des chrétiens de notre époque, où tout est devenu politique, c'est d'oublier de cultiver un regard vertical, puis d'avoir un espoir transcendant, un espoir en Dieu. Des gens, parfois, ont un regard plus horizontal. Ils veulent sauver leur nation ou la civilisation occidentale. Mais ce n'est pas à ça qu'on est appelé. On est appelé à la sainteté. On est appelé à regarder par en haut, à avoir un regard sur Christ et sur Dieu, et à marcher dans la justice et la sainteté. Et cette vie-là, c'est une vie, non pas par nos propres forces, mais au travers Christ, qui accomplit la loi et nous fortifie par son esprit. Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce n'est pas un commandement qui est destiné à nous écraser. C'est un commandement qui est là pour nous conduire à Christ, qui est le seul qui incarne parfaitement la sainteté de Dieu. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Le passage qu'on a lu, ça parle d'aller au-delà du légalisme, au-delà de ce qui est requis. Jésus veut qu'on présente au monde une image d'une société où les lois ne sont plus nécessaires. Une société où chacun renonce à ses propres droits en faveur des autres. Une fenêtre sur le ciel. C'est rien de moins. C'est ce que l'Église devrait être. C'est ce que Jésus veut que l'Église soit. Une fenêtre qui offre un aperçu. Peut-être que c'est un aperçu limité, incomplet, fugace, mais un aperçu de la société parfaite qui nous attend. Il sait qu'on ne sera pas comme société jamais parfaite de ce côté-ci du ciel, mais il nous appelle à viser cet objectif-là tout en reflétant les valeurs de Dieu notre Père. On peut choisir d'être saint parce que Dieu est saint. Ainsi, à chaque fois que vous refusez de jouer le jeu du monde avec les mots, et que vous cherchez plutôt la vérité, quand vous laissez votre oui signifier oui et votre non signifier non, vous créez une fenêtre vers le ciel ou un temps où les serments vont être obsolètes, où il y aura seulement la vérité. Chaque fois que vous refusez de vous venger, lorsque vous refusez de défendre votre propre honneur et que vous laissez plutôt Dieu vous justifier et que vous faites doublement du bien à ceux qui vous font du mal, vous peignez une image de perfection, un temps où la justice aura été rendue une fois pour toutes. Chaque fois que vous montrez de l'amour envers vos ennemis, vous tendez une voie de sauvetage et d'espoir au monde qui dit « Dieu vous aime toujours ». Alors que vous étiez encore ses ennemis, il a envoyé son Fils mourir pour vous. Il est encore temps de réparer votre relation avec lui, de vous assurer de vivre éternellement avec lui. Et chaque fois que vous prenez l'appel radical de Jésus d'être parfait comme votre Père céleste est parfait, vous offrez un aperçu d'un monde différent, un monde où les lois sont plus nécessaires, un monde qui est possible grâce à Jésus, au cœur nouveau qu'il nous donne, à son esprit. Et un jour, ça va devenir une réalité parfaite. Et ma prière, en finissant, c'est de vraiment « Oui, Seigneur, reviens ». Et alors, on sera vraiment parfait comme notre Père céleste est parfait. Que Seigneur nous bénisse avec sa parole qui vous encourage à chercher cette perfection en Jésus. Amen.